Est, nous nous inclinons devant toi. Ton serviteur Samuel disait, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous voulons écouter ta parole, nous voulons savoir ce que tu as à nous dire. Nous nous humilions devant toi parce que nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons lire les Écritures, les méditer, nous pouvons les étudier, mais sans le recours de ton esprit, nous ne pouvons pas comprendre les profondeurs de ta personne, de la vie que tu nous demandes de vivre avec toi, de marcher humblement avec notre Dieu et de dépendre de toi. Père, merci pour le Saint-Esprit. Nous fêtons aujourd'hui le jour de la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. C'est un privilège d'être scellé du Saint-Esprit, de comprendre la vie de l'Esprit en nous. Mais tu vois, nous sommes encore des étudiants qui avons tellement besoin d'apprendre encore la vie de l'Esprit. Alors nous te demandons ce matin de nous enseigner à te laisser remplir nos vies de ta présence, à nous donner. Nous avons chanté, Seigneur, je te donne tout, je renonce à tout. Eh bien, Seigneur, permets que ce chant soit une vérité pour chacun de nous, afin que tu nous remplisses de ta présence. Nous te le prions et demandons au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est un petit problème de cri d'enfant. Il y a une belle aquarium là-bas. Je le dis pour ne pas déranger pendant le message. Merci. Alors, on va reprendre l'Épître aux Éphésiens. Et on en est au chapitre 5. Et nous allons lire chapitre 5, versets 15 à 21, pour regarder le contexte. Mais on va regarder seulement la deuxième partie du verset 18. Et nous lisons donc à partir du verset 15. Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Et c'est ce que nous avions vu il y a quelques dimanches, n'est-ce pas ? Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Si vous voulez bien peut-être éteindre ici, on verra mieux la vidéo, enfin, le PowerPoint. Nous sommes dans le sujet de la marche du croyant, à l'Épître aux Éphésiens, la marche dans la sagesse. Nous avons regardé à partir du verset 18, ce que c'est que, à partir du verset 15, ce que c'est que la marche dans la sagesse. Et ce matin, le titre du message, c'est le verset, la deuxième partie du verset que nous allons regarder, être rempli du Saint-Esprit. À partir du chapitre 4, nous avons la description de la marche du croyant, et c'est le thème tout le long de l'Épître aux Éphèses à partir du chapitre 4. Dans les trois premiers chapitres, l'apôtre Paul nous dit ce que nous sommes, ce que nous avons en Christ. C'est comme si vous prenez un hélicoptère et vous montez, n'est-ce pas, en haut de l'Everest et vous contemplez tous les Alpes. Pas beaucoup d'efforts à faire, on n'a pas besoin de gravir la montagne, n'est-ce pas? C'est juste le Seigneur qui vous élève dans les cieux et qui vous fait contempler sa gloire et sa personne et qui vous dit, voilà ce que vous avez en moi. Vous êtes assis dans les lieux célestes. Mais la vie chrétienne est une vie de tous les jours, quotidienne, que nous vivons sur terre. Et l'apôtre Paul nous dit à partir du chapitre 4 comment marcher. Alors on a vu déjà en début du chapitre 4 que nous devons marcher d'une façon digne, à ne plus marcher comme les païens, à apprendre de Christ, à se dépouiller, donc à marcher en nouveauté de vie, à changer de conduite. À partir du chapitre 5, l'apôtre Paul nous dit de marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, comme imitateur de Dieu. Et pour cela, vivre séparé du péché Et puis de verset 8 à 14, on a vu marcher comme des enfants de lumière. À partir du verset 15, le sujet de la marche est la sagesse. Dieu nous demande de marcher dans la sagesse. Et je vais lire les versets 15 à 17 pour nous rappeler le contexte dans la version Darby, plus littérale, qui me semble plus pertinente pour ce texte. Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvu de sagesse, mais comme étant sage, saisissant l'occasion parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il me vient à l'esprit que le dernier dimanche, nous étions à l'église de nos enfants. Il y a un frère, à la fin du culte, le dimanche soir, ils ont culte le matin et le soir, il a donné brièvement son témoignage. Il a dit, moi j'étais chef de gang, et il nous a raconté tout ce qu'il a fait, c'était incroyable. Il dit, mais j'étais vraiment insensé. Et je dis, oui, le salut, ça apporte la sagesse. C'est évident qu'une fois sauvé, on a une vie différente et la sagesse de Dieu pénètre en nous. Autrement dit, Dieu nous demande d'être sages et de nous conduire avec circonspection, de façon soigneuse, d'être attentif à la façon dont on vit. Et ça, c'est rendu possible parce que Christ est notre sagesse. Et puis, nous avons sa présence dans nos vies. Donc, nous devons comprendre quel est le plan de Dieu pour notre vie. Et puis, Paul, à partir du verset 15, montre, n'est-ce pas, cette marche dans la sagesse avec des injonctions tantôt négatives, tantôt positives. Et par exemple, il nous demande de comprendre quel est le plan de Dieu pour notre vie. Alors, il y a des gens qui ont difficulté à comprendre et à respecter ou à suivre la souveraineté de Dieu pour leur vie. C'est suivre l'exemple de Christ, c'est utiliser le moyen de Dieu pour suivre sa volonté, c'est s'attacher à sa parole, c'est suivre les conseils des chrétiens mûrs, le bon sens sanctifié, les circonstances, la correction du Seigneur, le Saint-Esprit, la prière. Et puis Paul continue au verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » En fait, il utilise un contraste ici entre ce que c'est que d'être ivre et de ce que c'est d'être rempli du Saint-Esprit. La question que le Seigneur nous pose ce matin est la suivante. Est-ce que nous sommes remplis du Saint-Esprit? Est-ce que nous comprenons ce que cela veut dire? Et comment être rempli du Saint-Esprit? Et comment savoir si l'on est ou non rempli du Saint-Esprit? Et ce n'était pas prévu que ce texte soit donné ce jour-ci, le jour de la Pentecôte, sinon j'aurais choisi un texte aussi qui parle du Saint-Esprit. Il y en a de nombreux dans la parole. Mais ce matin, on va regarder « Soyez remplis au contraire de l'Esprit ». Une des façons que l'on peut savoir si on est rempli ou non, Paul nous parle à partir du verset 19 des quelques fruits, n'est-ce pas, ou des résultats de la vie de l'Esprit. Par exemple, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu, dont la joie du Seigneur, la louange, l'action de grâce et la soumission réciproque. Et c'est ce que nous verrons, Dieu voulant, la prochaine fois lorsque nous regarderons l'Épître aux Éphésiens. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. De même qu'il y a une marche dans l'amour de Christ, il y a une marche dans la vie païenne, qui est une contrefaçon de l'amour. De même qu'il y a une marche dans la lumière, il y a une marche opposée à la lumière, c'est la marche dans les ténèbres. De même qu'il y a une marche dans la sagesse, qui est opposée à celle de la folie, qui est une marche dans la volonté de Dieu, opposée à celle d'une marche insensée, il y a une expérience spirituelle qui est une expérience de plénitude que Dieu veut nous offrir, par la présence de son Esprit Saint. À l'inverse de ce qu'est l'ivresse, une marche de l'ivresse due à l'excès de vin amène à une vie de débauche et même dans les cultes païens à un culte au faux Dieu. Mais quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous louons notre Dieu de tout notre cœur. Un commentateur a dit ceci, le contexte suggère que Paul fait ici une allusion explicite aux orgies d'alcool, associées communément aux cérémonies païennes de l'époque. Elles étaient censées procurer l'extase, une communion avec les dieux. Paul les appelle la coupe des démons. Il faudrait voir en Corinthiens chapitre 10, versets 19 à 20. Je résume un petit peu ce que nous avions vu la dernière fois. La Bible ne condamne pas de prendre du vin, mais la Bible est claire et il y a de nombreux passages qui condamnent l'excès du vin. Alors pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, et nous entrons dans le sujet à l'instant, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul compare l'ivresse du vin, qui est un excès, n'est-ce pas, de la prise du vin, avec la plénitude du Saint-Esprit? En fait, il y a des similarités et il y a des contrastes. Et nous entrons dans le vif du sujet et nous parlerons de la plénitude du Saint-Esprit. Dans les deux cas, la personne se trouve sous une puissance qui échappe à son contrôle. Dans le premier cas, l'ivresse, c'est la puissance intoxicante de l'alcool. Certains liqueurs sont appelés d'ailleurs des spiritueux. Dans le second, c'est la puissance de l'esprit. Dans les deux états, la personne est fervente. Au jour de la Pentecôte, on s'est mépris entre la ferveur produite par l'esprit et celle produite par du vin nouveau. Quelqu'un qui est ivre, il est comme une autre personne. Il a une certaine liberté, mais qui est en fait un esclavage. Celui qui est dans le Seigneur, il a une puissance qui lui donne une vraie liberté. Dans les deux cas, la marche de la personne est affectée. Vous avez déjà vu quelqu'un ivre. Je me souviens d'avoir vu, quand j'étais tout enfant, un homme ivre qui s'accrochait à tous les arbres les uns après les autres. Tellement il avait bu, il n'était plus capable de se tenir debout. Quelqu'un qui marche selon l'esprit a au contraire une marche droite, morale, qui glorifie Dieu. Et puis il y a un contraste qui les oppose. L'ivresse produit la dissipation et la débauche. Ce n'est jamais le cas quand quelqu'un est rempli de l'esprit. Quelqu'un qui se dit rempli de l'esprit ne vit pas dans la débauche. En état d'ivresse, on perd la maîtrise de soi, mais le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Galates 5, 22. Un croyant rempli de l'esprit n'est jamais hors de lui jusqu'à ne plus pouvoir se maîtriser. Les esprits des prophètes sont toujours soumis aux prophètes. La Bible dit donc, au contraire, soyez remplis de l'esprit. Et c'est ce que nous allons regarder ce matin. La marche dans la sagesse, se conduire avec circonspection, racheter le temps, ne pas être inconsidéré, comprendre la volonté de Dieu, ça se trouve au verset 15 jusqu'au verset 17. Ensuite, la marche de la sagesse continue avec le fait de ne pas s'enivrer, c'est le croyant et le vin, ce que nous avons vu la dernière fois, et être rempli du Saint-Esprit, c'est le sujet du croyant et du Saint-Esprit. Et ce matin, nous allons regarder ensemble être rempli du Saint-Esprit, ce que ce n'est pas, ce que c'est et comment être rempli du Saint-Esprit. En fait, il se serait une folie pour nous, les enfants de Dieu, d'essayer de vivre la vie chrétienne dans nos forces. Et si nous avons déjà essayé, et si parfois nous tombons dans ce piège, on voit bien qu'il est impossible de vivre la vie chrétienne sans la puissance de l'Esprit-Saint en nous. Vous serez saints car je suis saint. C'est dans la mesure où je me laisse remplir du Saint-Esprit que je vais avoir une vie sainte. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est un avocat qui nous a été donné pour nous qui l'avons reçu, et on le reçoit une fois pour toutes. C'est un avocat auprès de nous qui nous a été donné par Jésus-Christ, qui plaide en notre faveur par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est aussi un avocat qui plaide en notre faveur devant Dieu le Père. Le Saint-Esprit plaide en notre faveur au travers de Jésus-Christ, et Jésus-Christ plaide en notre faveur auprès du Père. Et dans les deux cas, le Saint-Esprit cherche notre intérêt. En fait, nous avons deux avocats. Nous avons un avocat auprès du Père, et nous avons un avocat auprès de Jésus-Christ qui se tient à notre côté et qui est même en nous. Dieu nous a pas laissés orphelins. Dieu nous a laissé un esprit de consolation. Dieu, le Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint nous a convaincus de péché. Et c'est parce que nous avons été convaincus de péché que nous nous sommes repentis, que nous avons abandonné le péché, que nous avons cru et que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Une fois que nous sommes scellés du Saint-Esprit, il y a quatre attitudes possibles face à l'Esprit, cette personne que Jésus chérit, que Dieu chérit dans nos vies. La première attitude, on l'a déjà vu en Éphésiens chapitre 4, ce serait d'attrister le Saint-Esprit. La Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption ». Et une des raisons de la tristesse du Saint-Esprit en nous, c'est l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie et toute espèce de méchanceté qui sont opposées, justement, au verset 32, à la bonté, à la compassion, au pardon réciproque. Le manque de pardon, ben, c'est un sujet de tristesse pour le Saint-Esprit qui nous habite. Un autre texte nous montre que nous pouvons résister au Saint-Esprit. Ça se trouve, et je vous le lis, si vous ne voulez pas tourner dans vos Bibles, en acte 7, verset 21. Et quand il eut été exposé la fille de Pharaon, Étienne qui dit « Vous résistez toujours au Saint-Esprit ». En fait, le croyant, l'homme incrédule résiste au Saint-Esprit, peut résister à l'action du Saint-Esprit pour l'amener à la repentance et au salut, mais il est évident que le croyant aussi peut résister à l'œuvre de Dieu. Est-ce que nous prenons le temps d'écouter Dieu, de lire la parole, d'écouter ce que Dieu a à nous dire? Et lorsqu'il nous parle, nous avons deux choix, soit de le laisser nous transformer, d'accepter ce qu'il nous dit, soit de lui résister. Mais nous devons prendre garde de ne pas résister au Saint-Esprit et de veiller à ce que qu'aucun d'entre nous n'ait un cœur endurci devant le Seigneur. Un autre texte aussi nous dit que nous pouvons éteindre le Saint-Esprit. La Bible dit « N'éteignez pas le Saint-Esprit » dans le contexte notamment de l'exercice des prophéties dans l'Écriture en Thessaloniciens. On voit que éteindre, c'est tout simplement mettre de l'eau sur un feu. Dieu peut communiquer un feu dans l'Église, dans une personne. Et éteindre le Saint-Esprit, c'est refuser, résister, ne pas croire à l'œuvre et à l'action du Saint-Esprit parmi nous, ou même dans nos propres vies. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit, nous pouvons lui résister, nous pouvons l'éteindre. Et bien sûr, la meilleure option, c'est ce que Paul nous incite ici, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Parfois, nous avons tendance à penser que de temps en temps, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ici du tout ce que le texte dit. Nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Et je vous recommande fortement un tout petit livre qui a été une clé pour moi dans ma vie chrétienne qui s'appelle « Soyez remplis de l'Esprit maintenant » de Roy Essien. Si vous pouvez l'acheter à la CLC, je ne vais pas vous le prêter parce que je veux que vous l'achetiez et que vous alliez à la CLC et vous commandez d'une manière ou d'une autre ce petit livre qui s'appelle « Soyez remplis de l'Esprit maintenant ». C'est une perle, ça ne vous fera pas peur de lire quelques pages comme ça. Mais lisez ce livre-là, il est extraordinaire. Nous allons regarder ensemble tout d'abord ce que ce n'est pas, ce que la plénitude de l'Esprit n'est pas. Ce n'est pas une expérience dramatique, mystique, ésotérique, accompagné d'un langage extatique ou de vision surnaturelle. Ce n'est pas une œuvre de la chair qui voudrait encore faire plus pour plaire à Dieu. Ce n'est pas non plus un processus par lequel nous recevons l'Esprit par degrés. Il y a des gens qui pensent que petit à petit, on doit de plus en plus avoir le Saint-Esprit. Mais le jour où on a le Saint-Esprit, on l'a tout entier. On n'a pas qu'une portion de Dieu. On a tout Dieu, tout le Saint-Esprit et tout Jésus-Christ en nous. Jésus-Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce n'est pas non plus le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit, vous avez été baptisé, 1 Corinthiens 12, verset 13, vous avez été baptisé en un seul esprit pour former un seul corps. Le temps grec ici a l'idée que c'est une action passée qui a des effets dans le présent, mais c'est une action ponctuelle, un phénomène passé, ponctuel, qui ne peut pas se répéter. Ceux qui cherchent notamment encore d'être baptisés du Saint-Esprit confondent la plénitude du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le jour de sa conversion, c'est naître de nouveau, c'est recevoir le Saint-Esprit pour former un seul corps, entrer dans l'Église, dans la famille de Dieu, et cela se fait une fois pour toutes. Le jour où on est de nouveau, on reçoit le Saint-Esprit, la Bible dit qu'on est immergé, rempli, baptisé du Saint-Esprit. Il y a le gage et le sceau du Saint-Esprit, en Éphésiens 1, versets 13 et 14. Ce n'est pas non plus l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit. Le sceau du Saint-Esprit, le gage du Saint-Esprit, qui est le gage du fait qu'un jour on va ressusciter dans l'éternité avec un corps glorieux. Quiconque a le Saint-Esprit a cette espérance qu'un jour son corps va être glorifié, va ressusciter et qu'il va passer l'éternité avec Dieu. Ce n'est pas non plus l'onction, Dieu peut donner une onction particulière, une puissance particulière dans la vie d'un croyant, et ce n'est pas non plus la promesse de demeure du Saint-Esprit chez le croyant. Parfois, il y a une confusion dans ce sujet de la plénitude de l'Esprit. La plénitude de l'Esprit n'est pas le baptême de l'Esprit. Ce n'est pas une expérience qu'on doit retrouver. La plénitude du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, ici il est écrit « soyez remplis de l'Esprit », mais le terme grec, le verbe grec, « plero », en grec, est à la voix passive, à l'impératif présent, et ça pourrait être traduit comme ça, « soyez constamment en train d'être rempli ». Vous ne pouvez pas vous remplir, je ne peux pas me remplir du Saint-Esprit. Mais je dois disposer mon cœur à recevoir la plénitude du Saint-Esprit, à ce que le Saint-Esprit demeure en moi de façon constante. Le Saint-Esprit, c'est une promesse, nous a scellés, et il demeure éternellement avec nous. Mais nous pouvons l'attrister, nous pouvons lui résister, nous pouvons l'éteindre, ou nous pouvons en être remplis. C'est donc un processus continuel, et non une expérience faite une fois pour toutes. Beaucoup de croyants veulent court-circuiter la plénitude du Saint-Esprit en pensant qu'un jour, ils auront une expérience extraordinaire qui va transformer leur vie pour toujours. Non, ce n'est pas le processus de la sanctification de la vie de l'Esprit en nous, qui est un processus qui demande obéissance, confession du péché, on va y venir dans un instant. Mais en fait, ici, l'aspect de la plénitude de l'Esprit ressort dans le passage comme un aspect continu. Et c'est un aspect constant de tout instant de la soumission au contrôle de l'Esprit. Une fois que nous sommes conscients que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous devons laisser vivre l'Esprit Saint en nous et nous laisser transformer, nous laisser diriger, conduire jour après jour dans cette plénitude afin de demeurer en lui comme il demeure en nous. C'est un commandement, ce n'est pas une obligation pour le croyant. Mais sans obéir à ce commandement, et donc d'être rempli du Saint-Esprit, nous ne pouvons accomplir la volonté de Dieu, parce qu'elle ne peut se faire que par la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui s'échappent de la volonté de Dieu, ceux qui s'égarent de la volonté de Dieu, c'est parce qu'ils ne vivent pas de la puissance du Saint-Esprit et confondent parfois leurs propres sentiments avec la volonté de Dieu. Dieu est souverain, et nous devons nous apprendre à nous soumettre à la volonté de Dieu, que nous ressentions ou non cela, c'est une question d'obéissance et nous devons vivre dans l'obéissance au Seigneur et être remplis du Saint-Esprit n'est pas simplement un sentiment, mais c'est une disposition de cœur constante à laisser agir Dieu dans nos vies. Il y a un piège terrible dans lequel moi-même je suis tombé, et la plupart peut-être d'entre nous sommes tombés, notamment au début de la vie chrétienne. Je cherchais des expériences comme Dieu, le soir dans ma chambre, quand il m'a converti, quand il m'a sauvé, il m'a donné une telle expérience. J'ai cherché ensuite cette même expérience. Mais l'expérience que Dieu permet dans nos vies est une expérience parfois, certaines expériences exceptionnelles, mais la plénitude de l'Esprit, c'est une vie personnelle, quotidienne, de discipline, et de soumission à Dieu. Ce n'est pas particulièrement une expérience extraordinaire. On va regarder le mot grec, le verbe, parce qu'il est utilisé dans le Nouveau Testament de trois façons. Et on va se rapprocher de plus en plus à ce que c'est que la plénitude du Saint-Esprit. Tout d'abord, le mot est utilisé pour parler du vent qui remplit les voiles d'un navire. Dieu veut nous pousser de l'avant. Et ce mot qui est utilisé ici, n'est pas un hasard. Lorsque Paul parle d'être rempli du Saint-Esprit, Dieu, par le Saint-Esprit, nous pousse à aller de l'avant, vers Dieu et vers ce qu'il a accompli. J'aime beaucoup la traduction littérale lorsqu'on est sauvé, la Bible dit que Dieu nous a préparé d'avance des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Mais dans le terme littéral, ici du grec, c'est nous marchions en elles. Autrement dit, chaque jour nous levons et Dieu a des bonnes œuvres préparées d'avance chaque jour dans lesquelles nous devons marcher parce que Dieu les a préparées. Il suffit juste d'être attentif à l'Esprit et de veiller à marcher pas à pas avec le Saint-Esprit qui nous accompagne dans notre vie de tous les jours. C'est extraordinaire cela. Nous avons Dieu comme Père. Il ne nous a pas laissés orphelins. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il n'est plus sur la terre. Nous ne pouvons pas voir Jésus de nos yeux physique, mais nous pouvons le contempler de nos yeux spirituels. Et il nous a laissé, il nous a scellé du Saint-Esprit, qui est notre guide sur terre. Nous pouvons être remplis du Saint-Esprit et marcher pas à pas avec lui, aller de l'avant. Le terme grec aussi était utilisé pour parler du sel qui pénètre la viande pour lui donner du goût et le préserver. Remplir, c'était comme pénétrer profondément. Et quand le Saint-Esprit nous pénètre profondément, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, le sel de la terre. Nous donnons goût aux autres de goûter à ce que nous goûtons et nous préservons le monde de la corruption parce que le sel était là pour préserver, il était utilisé pour préserver, n'est-ce pas, et conserver notamment la viande. Lorsque ce sel pénètre profondément la viande, elle lui donnait du goût et elle préservait la viande de la corruption. C'est exactement ce qui se passe dans nos vies. Lorsque le Saint-Esprit nous remplit, eh bien on a goût au Seigneur, on donne goût aux autres de goûter à ce que nous avons. Et aussi, vu la sainteté de l'Esprit en nous, nous préservons le monde de la corruption et notre propre vie de la corruption. Et puis le verbe est utilisé dans un troisième cas pour évoquer l'idée d'être totalement contrôlé. Joanne n'a pas délibérément choisi, par rapport à mon message, certainement le chant que nous avons chanté, où nous demandons au Seigneur de tout donner, de tout contrôler. Je ne sais pas si vous avez chanté ça. Si vous l'avez chanté avec votre cœur, eh bien, Dieu a entendu. Et puis maintenant, je pense à ce verset, et je crois que Salomon disait dans les Proverbes, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Lorsqu'on donne à Dieu notre cœur, qu'on le chante ou qu'on le prie, Dieu le prend au sérieux, savez-vous? Et donc, si vous avez donné votre cœur au Seigneur, ça veut dire que vous êtes prêt à ce qu'il vous remplisse, à ce qu'il vous contrôle, à ce qu'il vous domine, à ce qu'il soit Seigneur dans votre vie. Alors, dans la Bible, je n'ai pas le temps de lire les passages, mais on voit dans le Nouveau Testament qu'une personne, Jean 16, verset 6, peut être contrôlée par la tristesse, par la crainte, Luc 5, 26, par la colère, Luc 6, 11, ou même par Satan, Actes 5, verset 3, le cas d'Ananias et Saphira. Comment Satan a-t-il rempli vos cœurs, hein? Pierre disait Ananias et Saphira. Alors, par opposition, le croyant peut être totalement sous le contrôle de l'Esprit à l'exemple de Jésus. Nous faisons beaucoup d'efforts, parfois en tant qu'individu, en tant qu'Église, pour que les choses aillent de l'avant, pour que notre témoignage soit puissant. Mais avant de parler d'activité, nous devons d'abord être conscients de l'activité de l'Esprit en nous. C'est par l'Esprit de Dieu en nous que les choses s'accomplissent. Nous pouvons nous bouger, nous pouvons nous activer de mille et une choses, mais dans le Nouveau Testament et l'Église primitive, il n'y avait pas tous les moyens que nous avons aujourd'hui. Et pourtant, l'Évangile s'est répandu dans le monde entier. Pourquoi ? Parce que les croyants étaient remplis du Saint-Esprit. Ils avaient toute la puissance du Saint-Esprit, ils la vivaient parce qu'ils se laissaient contrôler par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui contrôle nos vies aujourd'hui? Qu'est-ce qui prend notre temps? Est-ce la télévision, la lecture, les journaux, les loisirs? Bon, dans une certaine mesure, Dieu n'est pas contre, mais qu'est-ce qui contrôle nos vies? Qu'est-ce qui a priorité dans nos vies? En Matthieu 4, verset 1, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Tenté dans le sens d'être éprouvé, testé. Et en Luc 4, verset 1 et 2, le passage pareil est écrit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, après qu'il fut récolté, il eut faim. Jésus s'est soumis au Saint-Esprit. Jésus s'est soumis complètement au Saint-Esprit, et rempli du Saint-Esprit, il fut emmené dans le désert pour être testé, éprouvé. Ce qui est une soumission de la part du Fils de Dieu, et la victoire qu'il a remportée face au diable, Dieu le Père avait voulu que Jésus soit guidé, parce que rempli du Saint-Esprit, dirigé dans un désert pour être tenté, éprouvé. Et on sait que Jésus a eu la victoire. J'aimerais ensemble que nous puissions aller dans les Actes des Apôtres, rapidement, et voir quelques personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit, en tout cas qui sont remplies du Saint-Esprit, qui nous sont présentées dans les Actes des Apôtres. Tout d'abord, il est question de l'apôtre Pierre, Actes 4, verset 8. Il est écrit, « Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » L'apôtre Pierre était rempli du Saint-Esprit. Il a fait quelques miracles, mais il avait une hardiesse pour un homme du peuple, entre guillemets ordinaire. Il avait une hardiesse, une puissance, qu'il était simplement communiqué par la puissance du Saint-Esprit. Ce que Pierre a pu faire, ce qu'il a pu prêcher, était lié à la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. En Actes chapitre 6, et versets 4 et 5, nous lisons, et nous continuerons à nous appliquer à la prière au ministère de la parole, c'était la priorité des apôtres. Cette proposition plut à toute l'assemblée, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Et on sait ensuite, au chapitre 7, comment Étienne a été prêt à mourir pour le Seigneur, martyr, lapidé, premier martyr de l'Église, lapidé par les Juifs et rempli du Saint-Esprit, et voyant même la gloire de Dieu. En Actes chapitre 9 et verset 17, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Et Paul a été un homme rempli du Saint-Esprit. Il a goûté à la plénitude du Saint-Esprit. Il a vécu par la puissance du Saint-Esprit. Et il a écrit les Écritures inspiré par Dieu, certainement par la puissance du Saint-Esprit, mais Paul a pu accomplir ce qu'il a accompli parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Quel est le prix que Paul a payé? Le prix de toute sa vie, il était prêt à mourir, il a tout donné pour le Seigneur. En Actes chapitre 11 et verset 22, il est écrit « Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche, c'est la naissance de l'Église d'Antioche. » Verset 24, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. J'aimerais vous faire une remarque. Nous sommes des pécheurs, n'est-ce pas? Combien d'efforts faut-il faire pour être rempli du Saint-Esprit, pour être pardonné, être purifié, être rempli à nouveau du Saint-Esprit? Nous avons tendance à inconsciemment peut-être, des fois, à essayer d'être rempli du Saint-Esprit, à faire l'effort de s'améliorer pour que Dieu enfin nous remplisse. Tiens, je vais lire 10 chapitres de la Bible aujourd'hui, je pense que là, Dieu va comprendre qu'il doit me remplir. Mais ce n'est pas la vraie façon de faire. La vraie façon d'être rempli du Saint-Esprit, c'est certainement par la confession, on va voir dans un instant, mais c'est la foi. Et je ne sais pas si vous avez remarqué avec moi, mais plusieurs cas, Étienne, Barnabas, ici, sont des hommes mentionnés comme étant remplis d'esprit et pleins de foi. Certainement, on peut penser que le fruit de l'esprit, c'est quelque part la foi, mais quelque part, d'être rempli du Saint-Esprit, c'est un acte de foi. C'est « Seigneur, je me confesse, remplis-moi de ton Saint-Esprit ». Et parfois, nous avons tendance encore à essayer d'être remplis par nous-mêmes, mais nous ne pouvons pas nous remplir du Saint-Esprit. Il est en nous, nous devons simplement lui laisser toute la place, mais lui demander de prendre toute la place. Et savez-vous quoi? Il veut le faire. Mais c'est un acte de foi. Et je vous invite ce matin à faire cet acte de foi et de vous laisser remplir du Saint-Esprit par la foi. Non pas que vous le méritiez, personne ne le mérite, je ne le mérite pas, vous ne le méritez pas, mais simplement par la foi. C'est un acte de foi. Acte 13, verset 9, on continue rapidement. Acte 13, verset 9, il est écrit « Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa sur lui les regards sur lui et lui dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur. Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras plus le soleil. » Je pense que la crainte s'est emparée de tout ce qui entourait Paul, n'est-ce pas, avec une telle autorité spirituelle. Et puis, un autre passage, 13:52, si vous me permettez, il est écrit, « Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. » L'expérience de l'Église primitive était la plénitude du Saint-Esprit, c'était de vivre dans la plénitude du Saint-Esprit. J'ai marqué ceci comme remarque, notre recherche de croissance et de succès n'est pas une question de méthodologie, mais d'être remplis du Saint-Esprit à l'exemple de l'Église primitive. Nous recherchons du succès, du fruit, nous recherchons l'œuvre du Seigneur, l'accomplissement de l'œuvre du Seigneur parmi nous, mais n'oublions jamais que toutes nos activités ne servent à rien si elles ne sont pas conduites par l'œuvre du Saint-Esprit, si elles ne sont pas suscitées par le Saint-Esprit et si elles n'aboutissent pas aux fruits de l'Esprit. C'est une remarque très pertinente parce que si nous agissons sans voir le résultat du Saint-Esprit, ça veut dire que parfois nous agissons dans nos propres efforts. Ce n'est pas une question de méthodologie dans l'Église, c'est une question de rechercher Dieu et d'être rempli du Saint-Esprit. Bien sûr qu'on voit dans les Écritures certaines méthodes d'évangélisation, à l'exemple de l'apôtre Paul, et nous devons suivre cela, mais certainement, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, Dieu va nous conduire de la même façon qu'il a conduit auparavant, dans les mêmes méthodes. En acte 17, verset 6, « Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Est-ce que nous sommes convenus comme des gens qui bouleversons le monde ? Alors comment un croyant peut-il être rempli du Saint-Esprit ? Je ne peux pas donner une étude sur le Saint-Esprit de façon exhaustive ce matin, vous l'avez compris, mais voilà ce que dit un commentateur. « Être rempli de l'Esprit requiert la confession des péchés et la soumission de la volonté, de la pensée, du temps, des talents, des possessions et des désirs. Cela requiert la fin de l'égocentrisme et la mort à soi-même. Lorsque nous sommes vidés de nous-mêmes, le Seigneur peut nous remplir de son esprit. Le principe selon lequel Jean-Baptiste vivait par rapport à Christ s'applique aussi par rapport au Saint-Esprit. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Quand on est rempli du Saint-Esprit, on est très sensible à ce que le Saint-Esprit nous communique. Et on devient très sensible de la façon avec laquelle on vit, de la façon avec laquelle on passe le temps, de la façon avec laquelle on se consacre à telle ou telle chose. Et on veille aussi à nos pensées, on veille à nos cœurs, on veille à nos attitudes, nos comportements. On laisse le Saint-Esprit nous convaincre de péché et on se repent devant Dieu pour être confessé, pour être purifié par son sang lorsqu'on est conscient qu'on a failli. En fait, Dieu nous demande de confesser et d'ôter tout péché dans notre vie. La plénitude du Saint-Esprit est quelque chose qui est la vie chrétienne normale du croyant. Le fait de ne pas être rempli du Saint-Esprit a pour obstacle essentiel, peut-être un manque de foi, mais le péché. C'est le péché qui est un obstacle qui obstrue la bénédiction de Dieu dans nos vies. Et la seule façon d'être à nouveau rempli du Saint-Esprit, c'est de confesser notre péché et de l'abandonner. C'est de le confesser à Dieu, de voir le péché dans le grec repentance, metanoia, c'est un changement de pensée d'esprit, c'est de voir le péché comme Dieu le voit. Nous faisons des concessions au péché parce que nous le voyons d'une façon humaine, peut-être même avec le plaisir qu'il peut nous apporter, parce que c'est la volonté de notre chair. Mais la confession du péché devant Dieu, c'est une vraie repentance, c'est dans un désir profond d'abandonner le péché parce que nous réalisons et nous voyons le péché comme Dieu le voit, et nous en avons horreur, et nous plaidons devant Dieu, non seulement coupable, mais nous désirons ardemment l'abandonner, évidemment avec l'aide de Dieu. Un deuxième aspect, donc si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Un deuxième aspect, c'est d'abandonner entièrement notre vie à l'autorité de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un culte raisonnable, ce qui sera, votre part, un culte raisonnable, comme un sacrifice vivant. Dieu veut, pour nous qui sommes des pierres vivantes, un sacrifice vivant, c'est se consacrer à Dieu. Seigneur, je te donne mes yeux pour voir ce que tu veux que je voie. Seigneur, je te donne mes mains pour faire ce que tu veux que je fasse. Seigneur, je te donne mes pieds pour que j'aille là où tu veux que j'aille. Vous avez compris l'image ici. C'est de se donner à Dieu pour le laisser agir au travers de nous. C'est merveilleux cela, non ? Il y a tellement de bénéfices dans nos vies à laisser Dieu agir. C'est incroyable. Nous pouvons tout lui donner. Cela implique l'abandon de notre volonté, notre raison, notre corps, notre temps, nos dons et nos richesses. Toutes les parties de notre vie doivent être dominées par l'Esprit. Que la parole de Christ demeure en nous dans toute sa richesse, dit Paul en Colossiens 3, verset 16. Cela implique la lecture, l'étude de la parole. Vous savez que Moody avait écrit dans sa Bible, où ce livre vous éloignera du péché, où le péché vous éloignera de ce livre. Dans la mesure où nous nous remplissons de la parole de Dieu, où nous l'apprenons par cœur, nous la méditons, nous la récitons, la parole de Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Christ. Face à la tentation, on peut réciter par cœur, aucune épreuve, aucune tentation ne vous est survenue, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté de vos forces, mais il préparera le moyen d'en sortir. 1 Corinthiens 12, 13. À chaque épreuve, chaque tentation, Dieu a une porte ouverte. Est-ce que nous le croyons de tout notre cœur? Est-ce que nous récitons par cœur les versets bibliques et les promesses de Dieu? Ou est-ce que nous nous laissons entraîner par nos propres pensées humaines et finalement défaitistes de la chair qui nous trompe et qui nous dirige loin de Dieu? Être rempli de l'Esprit, c'est simplement laisser la parole de Christ nous habiter et pénétrer chaque partie de notre vie. Charles Stud, un de mes missionnaires préférés, vous le savez, lisait la Bible constamment et à chaque promesse qu'il lisait, notamment dans le Nouveau Testament, il se mettait à genoux et priait, n'est-ce pas, ou à chaque commandement, il priait pour se consacrer à Dieu. Il dit, Seigneur, tu as ordonné ça, je me soumets à tes ordres. Vous pouvez lire dans le Nouveau Testament et souligner tous les impératifs qu'il y a. Et il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Mais ce ne sont pas des choses facultatives. C'est Dieu qui nous ordonne quelque chose. Et il nous ordonne, soyez remplis du Saint-Esprit. Comment être rempli du Saint-Esprit? Il faut nous vider de nous-mêmes. Paul disait, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pour qu'une coupe puisse être remplie d'un nouveau fluide, elle doit d'abord être vidée de l'ancien. Si nous voulons être remplis de lui, il nous faut d'abord nous vider de nous-mêmes. Le Saint-Esprit est un paraclète, un avocat auprès de nous, en nous. Il se tient à nos côtés, il est en nous, il plaide en notre faveur. Lorsque nous tombons, il plaide lorsque nous revenons vers Dieu. C'est incroyable comment Dieu est fidèle envers nous, les enfants de Dieu. C'est même le Saint-Esprit qui plaide lorsque le croyant tombe, afin qu'il revienne vers Dieu. Parce que dans notre nature pécheresse, on aimerait rester dans le péché. Mais une fois converti, on ne peut plus faire ce qu'on veut. Nul ne vit pour lui-même. Une fois qu'on connaît Dieu, on ne peut plus vivre pour soi. Parce que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit et nous appartenons à un autre. Il est le maître, il est le Seigneur et nous sommes devenus ses esclaves. C'est ce que dit la Bible, ses serviteurs. Nous, de nous-mêmes, nous nous sommes consacrés à Dieu. Comme un esclave qui a été racheté par un maître, par amour, a voulu rester esclave de son maître. Une fois qu'on a été racheté, qu'on comprend la valeur du rachat, on dit, Seigneur, tu es mon maître. Parle, je t'écoute. Être rempli de l'Esprit, c'est vivre en ayant conscience de la présence du Seigneur Jésus-Christ, comme si nous étions à ses côtés et le laisser dominer nos vies. Je crois qu'on n'est pas assez conscient dans nos vies que le Seigneur nous dirige instant après instant. Ce n'est pas une recherche d'un sentiment mystique, si je ressens ça à l'instant, et on peut se tromper dans ses sentiments. Mais lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on fait très bien la différence entre ce qui vient de l'Esprit, ce qui est ordonné par un renouvellement d'intelligence, ce qui vient de l'Esprit-Saint, dans un sentiment qui vient de l'Esprit-Saint, plutôt que dans quelque chose qui est de la chair. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, le reste vient de la chair. Être rempli du Saint-Esprit, c'est de marcher par l'Esprit, pas après pas. Je dis donc marcher selon l'Esprit, nous dit Paul en Galates, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est merveilleux cela. Je dépends de Christ. Et Dieu veut que je dépende de Christ. Dieu veut que je ne dépende plus de mes propres forces, peu importe mes capacités. Un auteur inconnu a écrit, je l'ai lu dans un livre, je vous le lis, je trouve ça très pertinent, « De même que vous êtes déchargé de tout le fardeau de votre péché et que vous avez trouvé le repos en vous basant sur l'œuvre accomplie de Christ, et concernant le salut, ainsi abandonnez-vous aussi tout le fardeau de votre vie » et de votre service, ayez confiance en l'œuvre présente du Saint-Esprit en vous. Peut-être nous ne savons pas être remplis du Saint-Esprit parce que nous ne connaissons pas qui est le Saint-Esprit, qu'il est une personne qui veut vraiment nous remplir. Abandonnez-vous jour après jour à la direction du Saint-Esprit et marchez dans la louange, l'âme en repos, lui laissant le soin de vous conduire tout au long de la journée. Pendant toute la journée, cultivez l'habitude de dépendre joyeusement de lui et de lui obéir, en vous attendant à ce qu'il vous conduise, vous illumine, vous reprenne, vous enseigne, vous emploie et fasse en et par vous ce qui lui plaît. Regardez comme un fait qu'il fasse son œuvre sans que vous voyiez ou sentiez quoi que ce soit. Pourvu que nous croyions à l'Esprit, lui obéissions, l'acceptant comme le souverain de notre vie et que nous cessions de péniblement chercher à gérer notre propre vie, nous verrons apparaître le fruit de l'Esprit en nous comme il lui semblera bon à la gloire de Dieu. Parfois, le Seigneur permet qu'il y ait un sentiment de paix particulier, de joie, mais à partir du moment où nous regardons à ce sentiment, où nous regardons au fruit de l'Esprit plus qu'à celui qui donne le fruit de l'Esprit, nous perdons rapidement la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est de rester attaché à Christ, à sa parole, de nous laisser remplir de lui et de nous attacher à lui de façon constante et permanente. Est-ce qu'on peut savoir si on est rempli de l'Esprit ? Quelques faits rapidement, je terminerai avec ça. Plus nous vivons près du Seigneur, plus nous sommes conscients de notre totale indignité et culpabilité. Vous vous souvenez peut-être en Ésaïe, lorsque Dieu permit qu'Ésaïe voie la gloire de Dieu et la sainteté de Dieu, voilà ce qu'il a dit. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Plus nous voulons marcher avec Dieu, plus nous allons voir et découvrir que nous sommes indignes et coupables devant Dieu. Dans sa présence, je ne trouve rien de quoi être fier en nous. Paul disait, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un pécheur. » Ça vous est jamais arrivé dans la présence de Dieu de vous trouver tellement indigne, dire, « Seigneur, je ne peux plus supporter ta présence. » Parce qu'on a honte de voir sa sainteté et de voir notre condition de pécheur et nos propres péchés. Nous nous sentons aucunement spirituellement supérieurs à d'autres. Nous n'avons pas le sentiment d'être arrivés. Le croyant qui est rempli de l'Esprit se préoccupe de Christ et non de lui-même. Il n'est pas centré sur lui-même, il est centré sur Christ. Et il se considère peut-être comme le plus grand des pécheurs, comme l'apôtre Paul. Et il sait qu'il n'est pas encore arrivé. Il ne vit pas dans la suffisance, mais il vit dans la dépendance. Il ne croit pas que ça y est, il est arrivé à un point dans sa vie où Dieu ne pourra que le bénir. Il sait qu'il a tout à apprendre du Seigneur. Comme a dit quelqu'un à l'âge de 60 ans, qui avait lu, je ne sais plus combien de fois la Bible, il a dit « Je n'ai mis les pieds qu'au bord d'un océan ». Au moment où on croit connaître Dieu, au moment où on croit connaître sa parole, on a tout à apprendre. C'est un peu le cas de Moïse, n'est-ce pas, qui avait tout appris, soi-disant, à la cour de Pharaon 40 ans. Et puis Dieu l'a envoyé dans un désert pour apprendre qu'il n'avait rien appris, pour enfin être un rien que Dieu a utilisé 40 ans plus tard. C'est la même chose dans nos vies, c'est dans la mesure où nous désespérons de nous-mêmes, que nous laissons Dieu agir, que nous verrons des résultats. Il voit des choses, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il voit des choses surnaturelles. Il voit des choses qui se mettent en place, qui ne dépendent aucunement de lui. Des vies sont touchées par Dieu, les événements ont lieu dans un horaire et un planning divin, entre guillemets. Et il n'est pas étonné quelque part, parce que Dieu reste souverain. Le croyant voit tout cela, il comprend que Dieu agit pour lui et par lui. Il n'est pas étranger aux bénédictions de Dieu. Il est conscient que ce qu'il vit vient de la bénédiction de l'Éternel et de ce qui peut être rempli de la bénédiction de l'Éternel, parce qu'il est conscient que Dieu le Père l'aime. Alors, le défi de ce matin, je vous le répète, c'est est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit ? Ai-je tout donné, cédé au Seigneur pour être rempli ? Je vais vous donner une illustration que j'ai déjà donnée, excusez-moi pour ceux qui l'ont déjà entendue, mais Charles Studd, un jour a rencontré un jeune homme qui cherchait la plénitude du Saint-Esprit. Et il lui a dit, moi je n'ai pas la joie du Seigneur. Alors il dit, bon, on va essayer de réfléchir un peu à ta vie. Qu'est-ce que tu crois que tu dois abandonner au Seigneur ? Puis il ne savait pas trop comment exprimer cela. Donc il a eu l'idée, Charles Studd, de lui donner... cette illustration, il a dit, tu vois, ta vie, c'est comme une commode, avec toutes sortes de tiroirs, puis des clés. Et puis, chaque tiroir représente un domaine de ta vie. Voilà, tu as le trousseau, et tu es maître d'ouvrir ou fermer le tiroir, parce que tu as la clé de chaque tiroir, tu es la clé de chaque domaine de ta vie. Il a dit, voilà le trousseau de ta vie, avec toutes les clés qui représentent les tiroirs des domaines de ta vie. Est-ce que tu n'aurais pas oublié de remettre... entièrement le trousseau de ta vie à Christ. Parce que nous disons, Seigneur, prends tout, nous le chantons, n'est-ce pas ? Mais des fois, nous gardons quelques clés. Et là, dans ce tiroir, là, attends, Seigneur, c'est top confidentiel. Est-ce que vous ne croyez pas que Dieu sait tout dans nos vies ? Lorsque nous commençons à nous cacher de lui, comme Adam s'est caché et Ève s'est caché, se sont enfuis loin de la face de Dieu. Mais pour Dieu, on ne peut rien lui cacher. Reconnaissons notre besoin de nous humilier. Pratiquons l'humilité, pratiquons l'humiliation et reconnaissons devant Dieu qu'il y a des domaines où peut-être nous ne lui avons pas tout donné. Nous avons peut-être entrouvert le tiroir, mais nous n'avons pas laissé le Seigneur prendre le dossier de sa main, le sortir du tiroir, le regarder, dire « Voilà mon fils, quel est le plan pour, de ma part pour toi dans ce domaine ? Mon fils, donne-moi ton cœur. » Peut-être nous avons le trousseau de Christ, nous avons compris qu'il y a certaines clés que nous lui avons données parce que nous savons bien que nous ne pouvons rien faire dans ces domaines. Nous lui avons remis tout cela, mais il y a peut-être des domaines où nous avons gardé précieusement des clés. Nous les avons sorties du trousseau, nous l'avons donné à Christ, mais nous avons caché certaines clés parce que nous ne voulons pas qu'il pénètre dans tous les domaines de notre vie. J'aimerais vous laisser avec une merveilleuse promesse pour ce jour spécial de la Pentecôte, mais ça devrait être tous les jours, dans le sens la joie du Seigneur. Pas tous les jours Pentecôte, parce que ce serait une erreur par rapport à tout ce que j'ai dit. Pentecôte, c'est quand on reçoit le Seigneur. Mais celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Nous avons vraiment besoin, frères et sœurs, et moi le premier, d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Prions dans notre Église, comme Paul priait aux Colossiens, afin que, et aux Éphésiens, afin que leurs yeux soient éclairés, illuminés, afin qu'on connaisse Christ comme on ne l'a jamais connu, que nous puissions nous humilier et dire, Seigneur, je te donne ma vie, prends-la, remplis-moi du Saint-Esprit. Prions, s'il vous plaît. Nous avons tous conscience que, nous sommes conscients tous et chacun, que nous avons besoin d'être encore plus remplis de l'Esprit. Alors je vous invite, là où vous êtes maintenant, dans votre cœur, devant Dieu, maintenant ou peut-être plus tard dans la journée, à aller vers le Seigneur, à lui confier votre vie et dire « Seigneur, oui, prends tout. » Il y a tel ou tel domaine qui n'a pas été encore cédé. J'ai peut-être perdu la joie de l'Esprit, j'ai peut-être plus la puissance pour témoigner ou d'autres domaines de la vie, dites-le lui au Seigneur. Laissez-vous purifier par son sang. Laissons-nous purifier par son sang et par la foi. Disons-lui notre confiance. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Père éternel, tu nous as conduits ce matin à considérer la vie de l'Esprit en nous, nous n'avons qu'esquissé certains traits de ce merveilleux tableau et sujet. Merci de ce que ton œuvre est parfaite en nous, en chacun de nous ici qui te connaissons. Merci de ce que tu veux achever, l'œuvre commencée. Aussi nous nous humilions devant toi. Nous désirons nous laisser remplir du Saint-Esprit. Soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Amen.